église d'Aios Lazaros et musée ecclésiastique de Larnaca. Les informations biographiques dont on dispose sur le personnage de Saint Lazare, Aios Lazaros, avant sa résurrection, sont peu nombreuses. Il était juif, originaire de Béthanie, dont le nom en hébreu signifie « maison des dattes non mûres ». La ville de Béthanie était située à proximité du mont des Oliviers, à environ 3 km de Jérusalem. Le nom Lazare n'est qu'un abrégé de l'hébreu Éléazar, qui peut se traduire par « Dieu a secouru ». Son père, dit-on, était Simon le pharisien. Lazare était frère de Marthe et de Marie. Selon Jean l'évangéliste, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Jésus appelait Lazare « ami ». De temps en temps, Jésus passait la nuit chez Lazare. Il avait tissé des liens d'amitié et d'amour avec toute la famille. Parmi les évangélistes, Jean est le seul à parler de la résurrection de Lazare et à se référer aux événements qui suivirent. Lazare est aussi brièvement évoqué dans l'évangile apocryphe de Nicodème. Pourtant, la plupart des informations en ce qui concerne la vie du saint après sa résurrection sont connues à travers les traditions et différentes sources byzantines. Dans le passage de l'évangile selon saint Jean, Jésus arriva avec ses disciples à Béthanie 4 jours après la mort de son ami. Il rencontra les 2 sœurs de Lazare qui déplorèrent la mort de leur frère et l'emmenèrent tout de suite au sépulcre. Jésus se rendit près de la tombe et ordonna d'en ôter la pierre. Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus demanda de le délier et de le laisser aller. Jean l'évangéliste continue en disant qu'après l'événement de la résurrection de Lazare, la réputation du Christ se répandit, ce qui provoqua le courroux des principaux sacrificateurs qui délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. La tradition veut que Lazare quitte la ville avec ses sœurs pour se sauver. L'itinéraire de Lazare, dès sa résurrection jusqu'à sa seconde mort, fut un point de désaccord entre l'Orient et l'Occident, car tant Quittion que Marseille ont revendiqué la présence de Lazare et par conséquent de ses reliques. Dès les premières années de l'ère chrétienne, la tombe de Lazare était une destination importante pour les pèlerins en Terre Sainte, comme en témoignent les récits de plusieurs d'entre eux, par exemple la nonne espagnole Éthérie, l'évêque Eusèbe de Césarée, Jérôme et le pèlerin Théodosios. Pendant le Moyen-Âge, l'église d'Aios Lazaros à Larnaca acquiert une notoriété singulière, comme l'attestent des dizaines de témoignages de voyageurs étant venus à Chypre, qui fournissent des informations importantes sur le monument et les messes célébrées à l'église. Selon la tradition orientale, persécuté par les Juifs, Saint Lazare s'enfuit de Béthanie avec ses sœurs et arriva à Chypre, où il fut ordonné évêque de Quittion et y vécut jusqu'à sa seconde dormition. Selon l'évêque de Constantia Salamine, Épiphane de Chypre, Lazare vécut à Chypre pendant 30 ans. Le synaxaire de Constantinople mentionne que le saint fut enterré dans un sarcophage de marbre sur lequel a été inscrit « Lazare des 4 jours, ami du Christ ». Plus tard, le sarcophage fut placé dans une petite église. En ce qui concerne la présence de Lazare à Chypre, un témoignage important est celui de saint Jean de Bée, 8e siècle, qui est d'ailleurs confirmé par d'autres sources ultérieures, comme le récit d'un voyageur allemand de 1142, le synaxaire de Constantinople, 12e et 13e siècle, qui fait mention de son ordination comme évêque de Quittion par l'apôtre Pierre, ainsi que les catéchèses de saint Théodore Studite. Selon la tradition byzantine du Xe siècle, l'empereur Léon VI le Sage ordonna le transfert des reliques de Lazare à Constantinople aux environs de l'an 899-900. Le transfert est décrit en détail dans 2 discours prononcés par le métropolite Arétas de Césarée. Selon une légende conservée par Damascène Studite, ainsi que dans des manuscrits chypriotes et attonites datant de la période ottomane, Saint Lazare aurait invité la Vierge et Saint Jean l'évangéliste à visiter l'île de Chypre. Pourtant, leur embarcation fut entraînée par une tempête sur le rivage d'Athos. Après un bref séjour à Athos, ils arrivèrent à Chypre, où la Vierge offrit à Lazare une paire d'épimanikia, surmanche, et un homophore, pallium. Une autre légende, mentionnée dans le Synaxaire de Constantinople, lie le saint au lac salé de Larnaca. Selon une première version, le saint rencontre deux frères qui se disputent un lac. Lazare fait sa prière et le lac se transforme en lac salé. Une autre version de la légende décrite par le voyageur Francesco Soriano vers la fin du XVe siècle raconte que le saint assoiffé demande à la propriétaire d'un vignoble quelques grains de raisin pour étancher sa soif. La dame refuse et Lazare transforme sa vigne en lac salé. Une des légendes les plus connues veut qu'un jour, Saint Lazare se trouve dans un marché public lorsqu'il voit un paysan voler avec adresse une cruche en argile et ensuite s'enfuir. Le saint s'arrête un instant et en souriant il dit « De l'argile vole de l'argile ». Au cours du XVIe siècle, les voyageurs Villamont, Pocock et Bayet, provenant de l'Europe occidentale, ont mis en question l'existence de la tombe de Saint Lazare à Larnaca, étant donné que sa réputation était déjà bien établie en France et en particulier à Marseille. Ils ont même indiqué où se trouvaient la tombe et les reliques de Saint Lazare en France. Donc, selon la tradition occidentale, les Juifs jetèrent Lazare et ses sœurs dans une barque privée de voile et de rames. Le vent poussa la barque jusqu'aux côtes de Provence, d'où ils se rendirent à Marseille, où Lazare prêcha l'évangile à la population locale. Durant les persécutions de Domitien, en 81 et 96, ou de Claude, en 41 et 54, Lazare mourut martyr et fut enterré dans une crypte souterraine connue aujourd'hui sous le nom Prison de Saint-Lazare, au-dessus de laquelle fut construite l'église de Saint-Victor au cours du 5e siècle. Au 12e siècle, ses reliques furent transférées à la cathédrale Saint-Nazaire à Autun et de là, à l'église de Saint-Lazare à Avallon, près d'Autun. Le crâne et partie du cubitus de Saint-Lazare sont restés dans l'abbaye de Saint-Victor où ils sont gardés depuis lors. La recherche scientifique moderne a démontré que cette tradition n'est pas basée sur des faits historiques et qu'elle a été créée afin de conférer du prestige et de l'allure à la ville d'Autun et au monastère de Sainte-Madeleine. Ce monastère, construit au XIe siècle, prétendait posséder les reliques de la sœur de Lazare. Suite au deuxième concile œcuménique du Vatican, l'Église catholique romaine a fait la distinction entre les deux Lazare. On fête l'évêque du 5e siècle le 31 août, selon le martyrologe de Marseille, et Saint Lazare des Quatre Jours, le 17 octobre, le jour du transfert de ses reliques à Constantinople. L'identification de Lazare à l'autre monde a permis l'association de son nom à des églises et des chapelles qui ont un caractère exclusivement funèbre, comme l'église du même nom érigée par l'empereur Léon VI à Constantinople, où il a déposé les reliques du saint et qui n'existe plus, et l'impressionnante église Saint-Lazare d'Avallon en France. En outre, la chapelle Saint-Lazare, dans le monastère de Pskov, abrite aujourd'hui un petit os emporté par un Russe, moine au monastère de Pskov, qui avait visité la tombe de Saint-Lazare à Larnaca. L'édifice majestueux de l'église d'Aios Lazaros à Larnaca fait l'orgueil non seulement de la ville de Larnaca, mais aussi de l'orthodoxie du monde entier, car il s'agit du monument le plus ancien et le plus beau qui ait été conservé jusqu'à nos jours et qui est consacré au Lazare des Quatre Jours. Le bâtiment initial a subi diverses modifications et adjonctions au fil du temps. Pourtant, la version actuelle date de la période méso-byzantine, du Xe siècle environ. Les études archéologiques réalisées à l'occasion de l'incendie de 1970 ont montré que l'édifice actuel a remplacé deux bâtiments antérieurs érigés sur le même site. Le bâtiment le plus ancien, qui représente la première phase de l'église, eut une basilique majestueuse à trois nefs, dont les dimensions étaient à peu près les mêmes que celles de l'édifice actuel. La structure tripartite du chœur, prothèse, autel et diaconicon, ne permet pas sa datation avant le VIe siècle. Au cours des invasions arabes, l'église aurait été détruite. Les graves dommages et la mauvaise conjoncture économique de la période n'ont pas permis aux habitants de Kition de reconstruire l'église tout entière. Donc, à l'emplacement de l'actuel chœur tripartite, fut érigée une église plus petite. Selon le synaxaire de Constantinople, après la construction de l'église d'Aios Lazaros à Constantinople, l'empereur byzantin Léon VI le Sage, 886 à 912, envoya ses représentants à Larnaca, à la petite église d'Aios Lazaros. La tradition veut que l'église actuelle de Larnaca soit construite grâce à une donation de l'empereur en échange des reliques qu'il avait fait transporter à Constantinople. Voyons maintenant l'église en détail. Il s'agit d'une basilique à trois nefs dont la toiture voûtée est interrompue par trois coupoles consécutives, un style architectural assez rare. Bien qu'à Chypre, on rencontre encore deux lieux de pèlerinage du même style à Salamine. À l'intérieur, l'église mesure 31,50 m de long et 14,50 m de large. On sait qu'elle est érigée sur les ruines d'un bâtiment plus ancien, qui lui-même fut construit sur un cimetière gréco-romain. Comme mentionné précédemment, l'itinéraire historique de Chypre a entraîné une série de modifications architecturales dans la forme de l'église. Cet endroit, en plus d'être un lieu de pèlerinage important, a aussi servi de monastère, dont la large enceinte et les structures adjacentes existaient jusqu'en 1999. Selon les témoignages de voyageurs ayant visité le lieu, les cellules étaient louées aux commerçants et aux marins qui venaient par la mer, tandis que pendant une certaine période, au cours de la domination ottomane, les cellules avaient servi de prison pour femmes. Pendant la période latine, de 1192 à 1571, l'église serait passée aux mains des catholiques. La croix potencée du royaume de Jérusalem au-dessus de l'entrée nord représente le blason de l'église latine de Chypre. Toutefois, selon les voyageurs Martin von Baumgarten en 1508 et Jacques le Sage en 1518, les orthodoxes et les catholiques partageaient l'église. Les orthodoxes occupaient la nef centrale, tandis que les catholiques occupaient la nef nord où se trouve aujourd'hui l'autel latin. De cette période date l'ambon de marbre qui fut transformé plus tard en fonts baptismaux de marbre et est exposé actuellement dans le musée de l'église. La modification la plus notable fut la perte des coupoles, provoquée sans doute par un tremblement de terre survenu à une date inconnue. En 1474, lors de sa visite à Larnaca, le voyageur Alessandro Rinuccini remarqua que l'église était abandonnée, mais les absides, les piliers et les trois coupoles étaient en place. Le voyageur Konrad Grunenberg aurait vu les mêmes coupoles en 1486. Un texte vénitien, daté du 26 janvier 1559, inclut une demande adressée au Sénat vénitien par Sebastiano Venier, provéditeur général de Chypre, visant l'autorisation du paiement pour la réparation du monument, qui avait subi de graves dommages, à savoir ses coupoles s'étaient effondrées et un de ses murs latéraux s'était écroulé. Le paiement a été autorisé par le doge et les travaux ont été exécutés par Andrea Duodo, le successeur de Venier à Chypre. Bien qu'on ne dispose d'aucun document pour savoir si les coupoles effondrées ont été réparées ou tout simplement couvertes comme elles le sont aujourd'hui, le témoignage du voyageur Johann Kotovicus, en 1589, y fait allusion à un ancien bâtiment dont le toit est constitué de plusieurs coupoles cylindriques, plaide en faveur de leur restauration. De toute façon, en 1727, quand le voyageur russe Vassili Grigorovitch Barski visite et dessine l'église, les coupoles ne sont plus là. Les diverses adjonctions ou restaurations ont considérablement altéré la forme du bâtiment. Dans la partie sud, fut ajouté un porche composé d'arcs en ogive et de piliers qui supportent les sept voûtes d'arêtes. Les murs nord et ouest ont aussi subi des interventions. À l'est, l'église aboutit à 3 absides. L'abside centrale est semi-circulaire à l'extérieur et à 5 pans à l'intérieur. Les absides nord et sud sont semi-circulaires à l'extérieur et à 3 pans à l'intérieur. L'incendie de mai 1970 provoqua la destruction partielle de l'iconostase. C'est alors que commence une recherche systématique qui, en révélant certains éléments de l'église, a permis la reconstruction de sa forme originale. L'enlèvement du crépi qui couvrait les piliers, les murs et les voûtes de l'église a fait apparaître les fenêtres originales. Ces fenêtres étaient oblongues et assez près du plancher. Une seconde rangée de fenêtres qui existe toujours se trouve plus haut. La forme de ces fenêtres apparaît dans les églises méso-byzantines de Constantinople, mais elle est totalement inconnue à Chypre. À l'origine, l'église avait 3 entrées dans la partie ouest. La porte centrale a été élargie, tandis que les portes voisines ont été murées. Les portes latérales auraient été ouvertes au cours de la domination franque. C'est durant cette période, et probablement au cours du XVIIe siècle, qu'ont été ouvertes les fenêtres actuelles aux arcs surbaissés sur les murs nord et sud de l'église. La maçonnerie de l'église consiste principalement en des blocs calcaires mesurant environ 1 mètre d'épaisseur. Le plancher original, réalisé par la technique d'incrustation en marbre, est composé de morceaux multicolores rectangulaires, carrés, losangés ou triangulaires, n'est conservé qu'au passage cintré des piliers de l'église. L'église était ornée de peintures murales qui sont complètement détruites. Le décor sculpté, provenant de la basilique ancienne, est remarquable. Il comporte des chapiteaux paléochrétiens qui sont actuellement intégrés au coin des piliers de l'église. Le fait qu'il s'agisse de chapiteaux de piliers et non de chapiteaux de pilastres, ainsi que leur intégration relativement inattentive mais pourtant symétrique, indique qu'ils sont de seconde main. Ouvrage d'art exceptionnel créé en 1773-1782 par le sculpteur sur bois Hadji Savas Taliadoros, l'iconostase en bois sculpté a été doré entre 1793 et 1797 et 1972-1974. L'iconostase est composée de 8 icônes despotiques. Despote faisant référence au titre de seigneur attribué au Christ et de souveraine attribuée à la Mère de Dieu. Une architrave au double registre représentant les 12 fêtes, la grande déicis et les lipira. Quelques-unes des icônes de l'iconostase ont été créées par le peintre Mikhail Proskinitis, venant de Maratassa, fin du XVIIIe siècle. Sur la porte centrale de l'iconostase figurent 8 pères de l'église, parmi lesquels Saint Lazare. Cette porte centrale est couronnée par le mendilion, l'image d'Edès, tandis que les portes latérales représentent principalement des saints locaux. En dessous des icônes despotiques, les bandes sont gravées avec finesse et représentent l'Ancien Testament, Adam et Ève, le sacrifice d'Isaac, l'hospitalité d'Abraham, et le Nouveau Testament, la nativité, le baptême, ne me touche pas, la résurrection de Lazare. Les couronnements des colonnettes de l'iconostase sont également très bien exécutés et représentent des anges debout, gravés sur bois. Ce style est également employé pour la décoration du ciborium en bois sculpté de l'autel. Mis à part l'iconostase, vous pouvez remarquer d'autres icônes. La plus importante est celle de Saint Lazare du XVIe siècle qui se trouve sur le mur nord de l'église près de l'iconostase. Plus récente, datant du XVIIe siècle, vous pouvez voir la résurrection de Lazare. Tout aussi importante, l'icône de Saint-Georges représentée à cheval et l'œuvre de Iakovos Moskos le Crétois en 1717. L'église abrite un grand nombre de reliques. Parmi elles, l'ambon en bois sculpté datant de 1734, selon une inscription en relief gravée sur le rouleau porté par un aigle, qui est orné de symboles des évangélistes et des anges en relief. Il faut aussi noter le trône despotique et la châsse en bois sculpté où sont préservées la tête et les reliques de Saint Lazare, ainsi que les 2 proskinitaria, pupitres destinés à recevoir les icônes. Le proskinetarion du sud accueille une icône représentant le martyre de l'apôtre André et celui du nord, une copie de l'icône russe de Notre-Dame de Kazan, recouverte d'argent martelé. Le clocher de l'église est digne d'admiration. Au cours de la période ottomane, l'utilisation des cloches était interdite, et la plupart des clochers médiévaux ont été démolis. En 1856, le décret impérial Atin Umayum a permis la réutilisation des clochers par les églises chrétiennes. C'est pour cette raison que la plupart des clochers chypriotes sont de date postérieure par rapport à leurs églises. En ce qui concerne l'église d'Ayios Lazaros, aussitôt après l'autorisation des autorités, l'église a procédé à l'achat de cloches, sans doute de Trieste, qui furent placées provisoirement sur un socle de bois à l'emplacement du clocher actuel. L'érection du clocher débuta en janvier 1857 et s'acheva 10 mois plus tard. Un registre de 1857 énumère tous les noms de ceux qui ont travaillé à la construction du clocher. Regardons le clocher de plus près. Il s'agit d'un clocher tour, mélange des styles néo-gothique et néo-classique aux décorations en relief, qui est constitué de 3 niveaux superposés en forme de cube, aboutissant à un toit conique. Le niveau inférieur est le résultat de la transformation de la superstructure du diaconicon qui est revêtue à l'extérieur de pierres équarries. Chaque côté du cube du milieu et du cube supérieur est percé de 3 fenêtres, dont les fenêtres latérales sont aveugles. Les façades des fenêtres aveugles au niveau inférieur ressemblent à des portes aux dortoirs, tandis que celles du niveau supérieur sont ornées aux fleurons. Les fenêtres en arc brisé sont couronnées de fleurons. Les tympans du cube du milieu sont ornés de petits fleurons. La fenêtre centrale du cube supérieur est ornée d'un aigle à 2 têtes et les fenêtres latérales d'une croix entourées de lions. La paroi est du clocher, au-dessus du toit de l'abside du diaconicon, est ornée d'une rosette circulaire qui ressemble à celle de l'architecture gothique et imite celle qui se trouve au-dessus du toit de l'autel. Les structures adjacentes, qui forment l'enceinte et les cellules du monastère d'Ayios Lazaros, ont été conservées jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, seule l'aile hypostyle méridionale et l'édifice à l'ouest sont conservés. Les cellules à l'est de l'église étaient louées aux commerçants et aux marins, assurant ainsi un revenu important à l'église. Les autres ailes étaient occupées par les ecclésiastiques et le sacristain de l'église. Depuis 1854, la chambre du sacristain s'est transformée en salle de conférence du comité ecclésiastique. Actuellement, une partie de l'espace des cellules sert de musée et abrite des icônes, des incunables, des croix et diverses reliques ecclésiastiques provenant surtout de l'église d'Ayios Lazaros. Une grande partie des reliques abritées dans le vieux iconophylaxion ont été transportées en 1948 au musée provincial de Larnaca, mais furent pillées lors des conflits intercommunautaires de 1963. Quelques cellules de l'enceinte ouest ont été reconstruites en 1758 et servaient de bureaux aux prêtres et de salles d'accueil pour les visiteurs officiels du monastère. Des structures adjacentes sont également préservées au côté ouest de l'église. Il s'agit de la vieille école d'enseignement mutuel, utilisée actuellement comme salle des manifestations, et du cimetière protestant. Le comité de l'église d'Ayios Lazaros a exprimé son vif intérêt pour l'éducation dès 1830 en apportant sa contribution financière au profit du fonctionnement des 2 écoles d'enseignement mutuel fondées à Scala et à Larnaca. Selon certaines sources, chaque prêtre était responsable d'un nombre d'enfants durant une période d'au moins 7 ans. Il aidait les étudiants à apprendre à lire et à écrire. Dans l'aile de l'enceinte de l'église d'Ayios Lazaros, il y avait aussi une école d'instruction religieuse avec un cours spécial pour les Russes orthodoxes. L'ambon de l'église a accueilli des personnages importants, comme l'enseignant Dimitrios Thémistocléus, élève d'Iconomou, ex-Iconomon. En décembre 1856, le comité de l'église a décidé de faire construire une école publique d'enseignement mutuel dans l'enceinte de l'église. Cet édifice a été conservé jusqu'à nos jours. L'école a fonctionné à compter de janvier 1858 jusqu'en 1910 et a abrité, en 1935, le musée local de Larnaca. Actuellement, le bâtiment est restauré et doté d'équipements audiovisuels. Il accueille diverses manifestations culturelles et religieuses, ainsi que les conférences de l'Université libre de Larnaca, Zénonion, une institution soutenue et animée par l'Université de Chypre, la municipalité de Larnaca, le ministère de l'Éducation et le mouvement progressiste de Larnaca. À côté de l'école se trouve le cimetière protestant. Selon le néerlandais Olfert Dapper, en 1688, c'était dans la nef nord de l'église d'Ayos Lazaros qu'étaient célébrées les messes pour les marins morts en mer et enterrés au cimetière. On ne sait pas si le cimetière abrite aussi des catholiques. Cependant, selon les inscriptions de 16 pierres funéraires et sarcophages datant de 1685 à 1849, il semble qu'il s'agisse d'un cimetière protestant, et en particulier anglican. Ce fait est lié d'une part au besoin de créer un cimetière protestant, étant donné que les catholiques pouvaient se faire enterrer dans le monastère de Terra Santa à Larnaca, et de l'autre, à l'arrivée et l'installation du consul britannique dans la ville, et à la force que celui-ci a progressivement acquis. Ceci est rendu évident par les témoignages des voyageurs qui font mention d'un cimetière de commerçants anglais. Actuellement, on peut voir les stèles funéraires des consuls britanniques à Larnaca. George Barton, Michael de Vezin, Dr. James Lilburn et Peter Dare, commandant du navire Scipio, ainsi que de certains des premiers missionnaires nord-américains et membres de leur famille qui sont arrivés à Larnaca au début du 19e siècle. En commençant par la partie sud du clocher et du portique, on voit la boutique qui vend des icônes et d'autres objets ecclésiastiques, la resserre, la chambre du sacristain, c'est-à-dire du gardien de l'église et du musée, le guichet, dont les revenus sont alloués au service social de la paroisse, le bureau de l'église où se trouvent le secrétariat et la comptabilité, l'épitropicon, salle de conférence du comité ecclésiastique. À l'ouest, de gauche à droite, on trouve le musée byzantin, le bureau du prêtre, le synodicon, salle d'accueil des visiteurs officiels, la salle de conférence, la vieille école d'enseignement mutuel et le cimetière. Intéressons-nous maintenant aux traditions chypriotes les plus importantes qui sont liées à Saint-Lazare. Le fait que le culte de Saint-Lazare à Chypre date d'une période lointaine est démontré par le rite du jour de Saint-Lazare, qui évoque la fête grecque ancienne des Adonis à Alexandrie. Le samedi de Lazare, l'évêque, accompagné du clergé et des laïcs, se rendait au synodicon, où les marguilliers avaient vêtu un jeune garçon, l'enfant de Lazare, d'un costume de fleurs appelé fleur de Lazare, une espèce de glaïeul, de similuscia, marguerite jaune, et de coquelicot. Les fleurs étaient tressées en couronne que le garçon portait sur la tête, aux bras et aux pieds, et en guirlandes posées en croix sur la poitrine et le dos. Ensuite, au son des hymnes funèbres et des lamentations, il faisait coucher le jeune Lazare sur un tapis couvert de fleurs. L'évêque lisait le passage évangélique et lorsqu'il arrivait au verset « Lazare vient dehors », le garçon s'élevait et le public lui jetait des pétales de rose et l'aspergeait d'eau de rose. Des mélodies réjouissantes envahissaient la cour de l'église et les évêques offraient de la colibe, plat funéraire, de Lazare et des figurines de pâtes en forme d'oiseaux, de tortues, de poupées, de crabes ou de serpents. Ensuite, un groupe d'enfants faisait le tour des maisons de Larnaca en portant l'enfant de Lazare et des rameaux pour répéter la représentation, tandis que les maîtresses de maison s'efforçaient de faire le lit de Lazare. Les prêtres qui accompagnaient Lazare célébraient la résurrection et les enfants chantaient les chants de Lazare. En échange, les maîtresses leur offraient des œufs, des gâteaux et de l'argent. Il convient par ailleurs de souligner l'œuvre philanthropique accomplie, tant au sein de la paroisse que dans la ville de Larnaca, par le service social paroissial. Le comité ecclésiastique de l'église d'Ayos Lazaros octroie une aide financière importante à des écoles, hôpitaux et fondations philanthropiques de Larnaca. Dans l'Arcontariki, lieu d'accueil, rénové de la paroisse, sont hébergés de temps en temps des étudiants, des soldats, lors de leur visite à Larnaca. En outre, un hospice donne l'hospitalité uniquement aux membres du clergé et aux moines. L'activité de l'église d'Ayos Lazaros est également remarquable sur le plan ecclésiastique. Les prêtres, en prêtant une oreille attentive aux besoins des travailleurs et en se rendant compte de la présence croissante des jeunes pratiquants, célèbre une seconde messe de Noël ainsi qu'une seconde messe des cantiques en l'honneur de la Vierge. Une des grandes priorités du comité ecclésiastique est le développement et l'enrichissement continu du musée de l'Église qui abrite des objets ecclésiastiques rares. Dans le cadre du festival de la municipalité de Larnaca, une série de manifestations culturelles a lieu dans l'enceinte de l'église, avec entre autres des concerts de musique traditionnelle le mardi de Pâques, le 29 mai, anniversaire de la prise de Constantinople, et le 9 juillet. En outre, en coopération avec la municipalité, plusieurs événements culturels de toutes sortes sont tenus sous le titre général « Jour byzantin ». Avec comme destinataires principaux les jeunes gens de Larnaca, le comité ecclésiastique d'Aios Lazaros va procéder à la mise en œuvre d'un centre polyvalent accueillant des événements culturels en face de l'église qui comportera une bibliothèque, un espace multimédia, internet café et une salle de manifestation et de réception. Allons maintenant faire la visite du musée byzantin de l'église. Pour faciliter la visite, nous allons vous indiquer le numéro de page du guide où vous pourrez voir la photographie de l'objet décrit. Le guide illustré de Kralalambos Kotsakoglou, intitulé « Aios Lazaros de Larnaca » est disponible à l'entrée du musée ecclésiastique. Musée ecclésiastique de l'église d'Aios Lazaros. Auparavant, le musée se trouvait dans le château médiéval de Larnaca et plusieurs reliques ont été volées lors des conflits intercommunautaires de 1963. Le reste des reliques a été transporté dans les bâtiments flanquant l'église d'Aios Lazaros. Actuellement, ces objets ornent le musée ecclésiastique restauré et réaménagé de l'église, c'est-à-dire le bâtiment de 1856. En même temps, le matériel exposé a été reclassé et enrichi de nouvelles reliques provenant de plusieurs églises de la ville grâce aux donations de la métropole de Kition. C'est l'expert Marios Hadjikyriakou qui fut responsable de la création du musée, le placement des vitrines, l'éclairage, la régulation de la température ambiante et les panneaux explicatifs. Le musée a été inauguré le 16 avril 1990 et comprend 5 salles. Salle 1, au centre, on peut voir une porte-icône en bois du 18e-19e siècle portant une icône de Saint Onifre datant de 1646. Saint Onifre vécut au 4e siècle et se fête le 12 juin. En commençant par la droite, le premier objet que l'on voit est l'antimension de 1830. Le mot, qui provient du grec antimension, anti, à la place de, au lieu de, du latin mensa, table, signifie littéralement à la place de la table. L'antimension est un tissu sur lequel figurent plusieurs représentations et symboles sacrés. Il remplace l'autel au cas où il ne se trouve point d'autel convenable ou lorsque la grande table de l'autel ne peut pas être utilisée, car selon les règles ecclésiastiques, il est impossible de célébrer deux divines liturgies le même jour sur un même autel. Donc, lorsque pour des raisons pastorales, il fallait célébrer la divine liturgie en dehors d'une église consacrée, le prêtre utilisait une table d'autel portative en bois, c'est-à-dire l'antimension. Ensuite, on peut voir l'aillère du 19e siècle représentant une croix et des anges. Page 86 du guide. Il s'agit d'un grand voile que le prêtre porte sur ses épaules pendant la grande entrée, la procession du calice et la récitation du symbole de la foi. À ce moment, le prêtre l'agite au-dessus du calice qui est déposé sur l'autel dans le chœur. L'objet suivant est un grand tableau sur canevas sur base de bois, intitulé « L'homme, Ecce Homo », datant des 19e-20e siècles. Il s'agit d'une représentation peinte de l'expression latine « Ecce Homo », signifiant « Voici l'homme », utilisée par Ponce Pilate lorsqu'il présenta Jésus à la foule, les mains liées, épuisées et couronnées d'épines, peu avant la crucifixion. À l'ouest de la salle, on trouve des icônes datant du 16e au 19e siècle. Il faut mentionner l'icône de Saint Abertius de 1859, page 73 du guide. Saint Abertius fut évêque d'Hierapolis en Phrygie et vécut à la fin du IIe siècle. L'Église lui reconnaît le titre d'égal aux apôtres parce qu'il a parcouru de longues distances pour proclamer, à l'image des apôtres, la bonne nouvelle du salut. Il mourut en paix à l'âge de 72 ans. L'Église orthodoxe célèbre sa mémoire le 22 octobre. Tout aussi importante, l'icône de Sainte Barbara, datant du XVIIIe siècle, est perpendiculairement divisée en deux parties. Sainte Barbara a embrassé la religion chrétienne à l'époque de l'empereur romain Maximilien. Elle fut condamnée à mort et c'est son père païen qui l'exécuta de ses propres mains selon la décision de l'empereur. Le lieu et le moment exact du martyre ne sont pas connus. Une première version mentionne la ville de Nicomédie, aujourd'hui İzmit en Turquie, de Béthanie en 210. Une deuxième version l'a fait mourir à Héliopolis, aujourd'hui Baalbek, au Liban, en 360. Et d'autres sources, version catholique, dans une ville de Toscane. Sa mémoire est célébrée le 4 décembre. Ensuite, on peut voir une collection de livres d'évangiles du XVIIIe siècle qui comprend un ouvrage incunable en arabe du XVIIIe siècle et un livre d'évangiles de 1780 avec couverture argentée dorée qui avait été utilisé dans l'église le jour de la fête de Saint-Lazare. Plus loin, on voit une collection de documents écrits, dont un apôtre, c'est-à-dire un livre liturgique lu avant l'évangile, écrit en arabe, et daté du XVIIIe-XIXe siècle. En outre, on voit deux livres d'évangile du XVIIIe siècle et deux ménées, à savoir des livres liturgiques que le prêtre lit au début de chaque mois. Ces livres sont datés du XVIIIe siècle et correspondent aux mois d'août et de septembre. On trouve aussi plusieurs lettres du XVIIIe et XIXe siècle envoyées au comité ecclésiastique. La collection comprend trois lettres en grec, une lettre en français et une en arabe, datant du XVIIIe siècle. Dans les vitrines du sud, il faut remarquer une collection de vêtements liturgiques. À noter, les deux épitrachélions, à gauche et à droite, étoles portées par les prêtres et les prélats, ainsi que les deux épigonations, losanges suspendus portés par les prélats et les archimandrites. La deuxième vitrine enferme les polis, étoffes en croix brodées cousues sur les habits. Page 87 du guide. Au centre, il y a un haier du XIXe siècle avec broderie au plumetis faite à la main. Page 86 du guide. Enfin, on peut admirer un homophore du XIXe siècle, bande d'étoffes ornées de fils de soie d'or et multicolores qui forment des fleurs décoratives et qui est portée par les prélats. Page 84 du guide. Entre les vitrines, il y a un vieux coffre métallique de 60 cm de haut, daté du XIXe siècle, doté de trois serrures et d'une inscription en relief dans la partie supérieure qui nous donne des informations sur son fabricant français. Breveté, Magot de Charves, Marseille. Salle 2. On continue dans la deuxième salle, où il faut remarquer une haute horloge en bois, adossée au mur de gauche, de marque Héricon à Marseille. À droite, on trouve un épitaphios en bois sculpté du XXe siècle. L'épitaphios symbolise la mise au tombeau du Christ et est orné tous les vendredis saints de fleurs, essentiellement blanches et jaunes. La vitrine suivante accueille dans sa partie supérieure de petites lampes à huile et dans sa partie inférieure deux hexaptériges, séraphins aux six ailes, et une croix du XIXe siècle qui accompagne le prêtre lors de la grande entrée. À l'ouest, on remarque une cassolette argentée du XIXe siècle. Ensuite, on voit des agrafes métalliques du XIXe siècle, page 89 du guide, et juste à côté, des morceaux de la châsse en bois dans laquelle étaient enfermées les reliques de Saint-Lazare, découvertes le 23 novembre 1972. La châsse était déposée dans un sarcophage en marbre au sous-sol de l'église d'Ayos Lazaros, juste en dessous du chœur. Ensuite, on peut voir une collection de pièces en argent, du XVIe au XVIIe siècle, croix astérisque, instrument liturgique qui sert à préserver les parcelles de pain du voile qui doit les couvrir, en argent du 19e au 20e siècle, page 78 du guide, et des cuillères argentées du 18e au 19e siècle, utilisées lors de la préparation de la communion, page 80 du guide. En outre, une collection d'angolpia, médaillons que porte l'évêque sur la poitrine, et de croix pectorales. On distingue le petit angolpion en bois sculpté du 19e au 20e siècle, page 90 du guide. En haut à gauche, il y a un encensoir du 20e siècle et en bas, trois auréoles d'argent du 20e siècle, une auréole en argent doré du 19e siècle et un angolpion en nacre orné de l'image de la Vierge du 19e siècle. Ensuite, on peut voir des vases sacrés en métal, une collection de calices du 18e au 20e siècle et deux châsses reliquaires. La châsse, en bas à gauche, est métallique en relief, datée du 18e siècle, et celle en bas, à droite, a des lames en argent et date du 19e siècle. Au sud, on peut admirer une grande icône du 17e siècle représentant la résurrection de Saint Lazare. Après, on voit une demi-coupole en bois peint représentant la Nativité, datée du 20e siècle. La vitrine suivante enferme des crosses ecclésiastiques ornées d'ivoire, datant du 18e au 19e siècle. Page 92 du guide. Le plancher de verre offre une vue sur le plancher plus ancien. Au centre, il y a un vieil habit ecclésiastique, donation du monastère de Kikos. Deux vitrines près de l'horloge abritent des icônes de saints datant du 16e ou 18e siècle. Salle 3. Une porte étroite avec une rampe peu élevée donne accès à la salle voisine. Dans cette salle, au centre, il faut remarquer les fonts baptismaux vénitiens en marbre du 16e siècle. Page 81 du guide. Il s'agit de lambons dont les armoiries vénitiennes gravées sur sa périphérie avaient été, selon les voyageurs, grattées. Plus tard, il fut transformé en fonts baptismaux. Salle 4. Un escalier étroit de 14 marches en bois conduit au premier étage où se trouve la quatrième salle. Il s'agit d'une salle oblongue en forme de couloir où une série d'icônes orne les deux murs. En face au fond, il faut remarquer les lipira, le Christ en croix couronnant l'iconostase avec les figures de la Vierge et de Saint Jean le théologien, respectivement à droite et à gauche de la croix, tout en bois, et couvert de feuilles d'or. Page 70-71 du guide. À gauche, on voit les icônes de Saint Jean le théologien du 16e au 17e siècle et de Saint Georges tueur de dragons de 1694. À droite, entre autres, on voit l'icône de Saint Jean-Baptiste ailé de 1699. Salle 5. Une porte étroite avec une marche conduit plus bas dans une petite salle rectangulaire. C'est la cinquième salle et dernière salle du musée. La salle abrite une collection de petites icônes ornant tous les murs. Il faut mentionner les dernières icônes à droite datant du 18e siècle. L'icône de Saint Thomas. Saint Thomas est un des 12 apôtres disciples de Jésus. Juif, comme les autres disciples, il menait une humble existence de pêcheur. Il a laissé son métier pour suivre Jésus quand celui-ci le lui demanda. Il était l'un des plus fervents disciples de Jésus, pourtant il fut faible dans sa foi en doutant de la résurrection du Christ. Il y crut seulement en touchant les blessures du Christ lors de sa deuxième apparition aux disciples. L'Église orthodoxe célèbre sa mémoire le 6 octobre. L'icône de Saint Barthélemy, un des 12 disciples de Jésus, originaire de Cana en Galilée. La tradition l'identifie généralement comme étant Nathanaël, car les évangiles synoptiques qui citent Bartholomée et Philippe ne citent pas Nathanaël, alors que l'évangéliste Jean, qui cite Nathanaël, ne cite pas Bartholomée. La date anniversaire de son martyr est le 11 juin dans le calendrier de l'Église orthodoxe et le transfert de ses reliques est fêté le 25 août en Orient et le 24 août en Occident. Pour finir, l'icône représentant la synaxe des saints anges où figurent 18 anges portant le jeune Christ au centre, au sein d'un médaillon. Un jour, Lucifer, par orgueil, se dit « Je monterai dans les cieux, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Livre d'Isaïe. Sitôt ces paroles prononcées, il tomba de son rang élevé et fut précipité dans les profondeurs de l'abîme. Selon le prophète Élie et l'apôtre Luc, il entraîna avec violence dans sa chute une multitude d'anges de tous les ordres et devint leur chef. Face à ce spectacle lamentable, l'archange Michel, qui grâce à sa profonde humilité et à sa sage soumission à son Créateur, était puissamment affermi dans la lumière, s'élança, rassemblant les anges restés fidèles. Ainsi, Dieu l'a nommé chef des armées célestes. C'est lui qui réunit tous les anges qui ont chanté d'une voix forte. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. » La synaxe des archanges Michel et Gabriel et des autres puissances célestes et incorporelles constitue une tradition ancienne de l'Église orthodoxe et est célébrée le 8 novembre. Le mot « synaxe », lorsqu'il s'agit de cette fête, prend le sens de « attention », « concorde » et « unité ».